chronique de Philippe Jürgensen.
La chronique d'aujourd'hui porte sur le couple Chine-États-Unis. Est-ce un couple modèle ou un couple infernal ? Un changement de ton qui inquiète les dirigeants chinois se manifeste dans les déclarations de la nouvelle équipe présidentielle de Barack Obama à l'égard du grand partenaire et rival asiatique. Alors que l'administration sortante du président George W. Bush ménageait la Chine, le nouveau secrétaire au Trésor, c'est-à-dire ministre des Finances américain, Timothy Geithner, a déclaré ouvertement au Sénat « Le président pense que la Chine manipule sa devise et veut obtenir un changement de ses pratiques en la matière. » Ce à quoi la Banque centrale chinoise a vite réagi, qualifiant ces allégations d'erronées et trompeuses. Chacun sait que l'Empire du Milieu est aujourd'hui la vraie deuxième puissance économique mondiale, si l'on corrige les statistiques de produit national établies aux cours officielles pour retrouver les parités réelles de pouvoir d'achat. Il est évidemment dès lors essentiel pour le reste du monde de savoir si les gouvernements des deux principales puissances travaillent en bonne entente et maintiennent l'accord implicite qui a fonctionné tout au long de ces dernières années. Le contenu de cet accord, c'est que la Chine, qui s'industrialise à marche forcée, déverse ses excédents extérieurs, dus à une consommation interne encore insuffisante, sur le reste du monde, et notamment les États-Unis, qui, eux, surconsomment. Le déficit extérieur américain considérable qui en résulte est lui-même financé par l'achat de titres financiers en dollars par la Chine, ce qui boucle le circuit. Si à cet accord implicite devait succéder la mésentente, les protestations en matière commerciale sur la mauvaise qualité des produits chinois, les contrefaçons et autres s'ajoutant aux récriminations en matière de change, on pourrait aboutir à une guerre commerciale où les deux partenaires seraient perdants, entraînant le reste du monde dans la difficulté. On voit à quel point il est important que la lune de miel américano-chinoise ne se transforme pas en scène de ménage permanente. Examinons d'abord l'aspect monétaire du sujet. Il est indéniable que la monnaie chinoise, le yuan, est sous-évaluée, très sous-évaluée même, puisqu'il faut multiplier les chiffres officiels de revenus par 2 ou 3 pour rétablir les parités de pouvoir d'achat. Cette sous-évaluation n'est pas le fait du hasard, ni d'errement des marchés. Elle est due à une politique tout à fait volontaire du gouvernement de Pékin. Il faut savoir que le yuan n'a pas le même régime de totale convertibilité et de libre flottement sur les marchés d'échange que celui de l'ensemble des pays industriels depuis 1973. La devise chinoise reste une monnaie administrée, dont le cours par rapport aux autres devises est piloté par la Banque centrale. Depuis des années, les pays industrialisés demandent à la Chine de réévaluer la parité du yuan, qui est restée accrochée à un peu plus de 8 yuan par dollar, 8,3 exactement, pendant bien longtemps. En juillet 2005, la Chine a consenti une concession en admettant de décrocher de cette parité fixe et de laisser sa monnaie s'apprécier progressivement par rapport au dollar. Le moins qu'on puisse dire est que ce mouvement a été lent, puisque au cours des 3 années suivantes, le yuan ne s'est réévalué que de 20% environ contre dollar. Celui-ci ne valait plus, fin 2008, qu'un peu moins de 7 yuan, 6,8 exactement. Mais comme dans le même temps, le dollar baissait, lui, à l'égard de l'euro, la monnaie chinoise a en réalité continué à se dévaluer par rapport à la nôtre jusqu'à mi-2008. Les statistiques de la BCE montrent qu'un euro valait 10,8 yuan en moyenne au deuxième trimestre 2008 contre 10,2 en 2005. Ce phénomène ne s'est corrigé que fin 2008 avec la moindre force de l'euro par rapport au dollar. Et encore, c'est une correction très partielle. Même cette évolution entreprise depuis 2005 semble aujourd'hui remise en cause car la Chine craint les conséquences sociales d'un ralentissement de sa croissance, ramenée de plus de 13% en 2007 à moins de 7% en 2008, chiffre qui fait encore pâlir d'envie nos pays d'ailleurs. La Chine semble donc actuellement décidée à maintenir le cours le plus bas possible du yuan et à cesser ses efforts pourtant limités de réappréciation. Ce taux de change sous-évalué a pour conséquence de doper artificiellement la compétitivité déjà forte des produits chinois, d'où des excédents de balance des paiements courants de plus en plus importants qui se traduisent par l'accumulation de réserves de change. Les réserves chinoises atteignent actuellement 1 800 milliards de dollars, soit environ le tiers de l'ensemble des réserves mondiales. Que faire de ce trésor ? Même s'ils ont annoncé à plusieurs reprises leur désir de diversifier le placement de leurs réserves et notamment d'y augmenter la part de l'euro, les Chinois continuent en fait à placer la majeure partie de leurs réserves de change en dollars. Ils achètent donc massivement des bons du Trésor des États-Unis. La Banque centrale de Chine en est le premier détenteur extérieur devant le Japon, avec plus de 700 milliards de dollars. Mais ils achètent aussi des obligations d'entreprise, dites « corporate », réinvestissant ainsi leurs excédents commerciaux en titres financiers américains. Ceci leur donne en principe un moyen de pression sur les États-Unis, qui se trouveraient en grande difficulté pour financer leurs dettes toujours croissantes si l'Empire du Milieu n'était plus acheteur de ces titres. Mais ce n'est qu'une hypothèse théorique, tant du moins que les relations d'ensemble restent bonnes entre les deux pays, dans la mesure où couper le cordon ombilical aurait pour conséquence immédiate de faire chuter le dollar, c'est-à-dire de faire baisser la valeur des réserves accumulées par la Chine, tout en diminuant sa compétitivité extérieure. Il y a donc de bonnes raisons pour que le circuit que je viens de décrire continue à fonctionner. Voyons maintenant les aspects commerciaux de la situation. La Chine est aujourd'hui, au taux de change actuel et compte tenu de sa formidable croissance, un acteur ultra compétitif sur les marchés mondiaux, même si certains pays d'Asie ou un puissant exportateur comme l'Allemagne parviennent parfois à lui tailler des croupières. Elle dispose d'une production exportable d'autant plus importante que sa consommation intérieure reste excessivement faible. Le taux d'épargne chinois, difficile à mesurer au demeurant, est au moins de 30 à 40% contre 14 à 15% en France et pratiquement zéro aux États-Unis où les particuliers comme l'État n'hésitent pas à s'endetter pour consommer. Je ne citerai que les deux principales causes de cette sous-consommation chinoise, il y en a beaucoup d'autres. L'angoisse de l'avenir dans un pays où la majorité d'une population rapidement vieillissante ne dispose que d'un système de retraite faible, et le très fort décalage entre le mode de consommation traditionnel des populations rurales de l'intérieur, encore très nombreuses, et celui, de type plus moderne, des régions côtières occidentalisées. Grâce ou à cause de cette situation qui se conjugue à un taux de change sous-évalué, la Chine voit ses excédents commerciaux s'accroître d'année en année. Ses exportations, après avoir progressé de 25% par an en moyenne depuis l'an 2000, représentent un dixième du total mondial, contre à peine plus de 1% il y a 25 ans. Et sa balance commerciale à l'égard de l'ensemble du monde est largement excédentaire, 260 milliards de dollars de surplus en 2007, plus de 300 sans doute en 2008. Son commerce bilatéral avec les États-Unis, en tout cas, fait apparaître à lui seul un excédent de 246 milliards de dollars en 2008, c'est-à-dire plus du tiers du déficit américain. Il n'est pas étonnant qu'une telle force de frappe commerciale inquiète les politiques, dans la mesure où un déficit extérieur, qui s'aggrave, comme aux États-Unis ou en France, signifie que l'on importe du chômage. On comprend bien que ce qui est produit à l'étranger puis importé crée de l'emploi pour d'autres que pour nos concitoyens. Les nombreuses délocalisations d'activités vers l'Asie ne font que le confirmer. Dès lors, la tentation de mettre en exergue des contentieux commerciaux, d'ailleurs souvent fondés, avec la Chine, est forte. Il est vrai que la qualité des produits chinois laisse parfois à désirer, comme l'ont montré les affaires des produits laitiers frelatés à la mélamine ou des jouets et des meubles contenant des produits chimiques dangereux. Il est vrai aussi que la Chine est loin d'être complètement un pays de droit et que la propriété intellectuelle y est souvent mal respectée, comme des affaires retentissantes de contrefaçon l'ont montré. Il est vrai, enfin, que l'accès au marché chinois reste souvent entravé par des règles administratives ou des normes très discutables. On le voit bien, par exemple, pour nos services financiers de banques et d'assurances qui doivent arracher des autorisations province par province dans un pays qui en compte 22. Il est donc légitime de défendre nos positions commerciales et de pourchasser produits frelatés et contrefaçons. En revanche, il serait grave que des contentieux entrepris pour ces motifs légitimes finissent de représailles en représailles par dégénérer en une guerre commerciale désastreuse. La crise économique actuelle pourrait y conduire. La tentation du chacun pour soi est forte, accompagnée de l'illusion que l'on protégera l'emploi chez soi en se fermant aux autres. Ce serait bien sûr oublier que chacun de ces autres pays est un concurrent, mais aussi un acheteur de nos propres produits. Il faut éviter à tout prix ce réflexe de fermeture. Souvenons-nous que l'aggravation de la crise économique mondiale dans les années 30 est due précisément à l'introduction par les États-Unis dès 1930 des fameux tarifs douaniers Smoot-Hawley, entraînant des mesures de rétorsion des autres pays et l'effondrement global du commerce mondial qui a baissé de plus des deux tiers entre 1929 et 1933. Personne, évidemment, ne souhaite voir un tel drame se renouveler. Pourtant, la violence de la crise actuelle conduit les tendances protectionnistes à réapparaître, avec le vote de la Chambre des représentants réservant les commandes publiques du plan de relance américain à l'acier du pays, les aides réservées en Europe aux banques et aux entreprises qui investissent localement, ou, plus fâcheux encore, les menaces en Angleterre ou en Espagne contre les travailleurs immigrés. D'ores et déjà, le FMI prévoit, après des années de vive progression, une chute du commerce mondial de 5% en 2009. Pour que la situation ne s'aggrave pas, on doit espérer que les nouveaux dirigeants américains sauront résister aux tentations protectionnistes et conserver au sein du ménage sino-américain une bonne entente dont toute la planète a besoin.